sur Blueprint.
Salut, bienvenue dans La Cartouche, le podcast du jeu vidéo d'aujourd'hui. Je m'appelle Lou Lassina Foubert, social media manager chez West France, journaliste chez Gamekult et auteur chez Third Edition. Et toi, c'est Yann Rieder, tu écris et tu podcastes pour Gamekult et Red Bull Games. Salut Yann.
Salut Lou, tu vas bien?
Bah écoute, ça va très très bien, et toi, comment va?
Écoute, tranquille, on commence cette nouvelle année pour la cartouche sous le signe de l'efficacité, je dirais, vous rendrez compte dans les prochains épisodes qui vont être publiés dans les deux prochaines semaines. Vous allez voir, ça va être assez spécial, un petit peu nouveau, on tente quelque chose.
Oui.
On verra si vous kiffez. En tout cas, nous, on va prendre, je pense, assez de plaisir à traiter différents sujets, à commencer donc aujourd'hui dans le flux de la cartouche. De quoi on parle?
Bah écoute, aujourd'hui on va parler des annonces Pokémon qui ont un petit peu créé un petit séisme. J'ai envie de dire, qu'est-ce qui s'est passé exactement?
Eh bien, on a eu un petit Pokémon Direct le 9 janvier dernier, et la grosse annonce un peu historique de ce Direct, bah, c'est celle des premiers DLC Pokémon, dont le modèle fait penser à ceux de Zelda Breath of the Wild, à mon avis. Alors mon cher Lou, ces DLC, qu'est-ce que c'est? C'est deux DLC qui vont être lâchés, droppés, une fois que vous avez payé pour la chose, à deux moments différents.
Alors, tu fais une comparaison avec Zelda Breath of the Wild. Zelda, je trouve... Enfin, je pense qu'il y a des comparaisons qui sont un peu plus justes, parce que Zelda, pour moi, ça ajoute pas du contenu à l'aventure principale. C'était plutôt des petits challenges supplémentaires. Là, selon ce qui a été présenté, j'ai vraiment l'impression qu'il s'agit d'aventures supplémentaires. C'est-à-dire, il prolonge l'histoire principale. Et c'est quelque chose qui aurait d'ailleurs pu figurer au scénario du jeu. Alors, pour être très concret, très basique, il y a donc deux DLC qui vont arriver, respectivement en juin et en novembre. Le premier étant Isole Armure, donc l'île solitaire de l'armure. Voilà, exactement. Et le deuxième, c'est Coroneige, donc les terres enneigées de la couronne, avec chacun un Pokémon légendaire. Un nouveau Pokémon, une nouvelle forme de Galar qui est donc Ramolos, qui a besoin de deux objets différents pour évoluer, l'un se trouvant dans le premier DLC, l'autre dans le deuxième DLC. Oh, comme c'est malin, n'est-ce pas? Et puis surtout le retour de plein d'anciens Pokémon, ce qu'on va détailler ensuite.
Alors déjà un premier point là-dessus, et je tiens à donner un petit peu d'informations aux auditrices, aux auditeurs qui nous écoutent et qui sont intéressés par ce DLC, déjà là de but en blanc en disant mon dieu, plus de contenu pour mon Pokémon épée bouclier, vite vite où j'achète. Déjà à vous, donc ça se passe sur le Nintendo eShop évidemment, le prix on y reviendra plus tard mais il est pas minime, et surtout il y a une version du DLC pour la version épée, une version du DLC pour la version bouclier, ils contiennent relativement la même chose, il y a un rival.
On peut dire la même chose.
Il y a un rival différent, enfin, c'est à la Pokémon, c'est-à-dire qu'on a deux, trois petites différences les uns que les autres, mais fondamentalement, c'est le même contenu, vous allez pouvoir explorer les mêmes zones. Par contre, ne vous trompez pas en achetant l'un au lieu de l'autre. Si vous avez Pokémon épée, achetez le pass, version épée. Pareil pour la version bouclier, vous pouvez faire l'erreur, le eShop vous permet de faire l'erreur, ce que je trouve un petit peu dommage, si tu veux, mon avis là-dessus. Enfin, bref.
Oui, je suis d'accord.
En tout cas, est-ce que c'est la bonne vision de se lancer comme ça dans du DLC pour la licence Pokémon, pour laquelle c'était pas vraiment le cas, en tout cas sur vraiment l'aventure canonique?
Alors, sur l'aventure canonique, c'était même hors de question à une époque. Mm-hmm. Nos jeux sont complets, on les conçoit de telle sorte, voilà. C'est un petit peu le discours que tenait aussi Nintendo, hein, finalement. Je me disais que c'était la bonne, mais je me disais en même temps, ils sont tellement, tellement, tellement conservateurs chez Pokémon que jamais ça n'arriverait. Mon copain me disait, oh, tu verras, ils vont annoncer un DLC et tout. C'est beau de rêver, tout ça. Et je dois dire que quand ils l'ont annoncé, ça a été la petite claque. Et en même temps, je me dis, c'est évident. C'est évident que c'est ça qu'il faut faire. Bien
ça
évidemment.
Donne de l'eau au moulin, des gens qui disaient, ce jeu-là n'est pas fini, il lui manque plein de choses, il lui manque des Pokémon, il lui manque de différents espaces à explorer. Il est incomplet. Clairement, ça justifie un petit peu les propos tenus par ces gens-là, non?
Ce que je confirme, hein, même si je donnais une bonne note et que c'est un jeu que j'apprécie, j'avais déjà dit notamment ici dans la cartouche qu'on passait du coup du jeu univers au jeu épisode. Pour moi, le retour de ces DLC pour plusieurs raisons nous donne la possibilité éventuelle de revenir vers les jeux univers si c'est suivi. Il faut que ce soit une politique qui soit suivie. Un peu, finalement, comme Smash Bros aussi a eu son premier season pass avec 5 personnages et aura droit à son deuxième season pass. Je sais pas si c'est aussi 5 personnages, mais voilà. Enfin, l'idée, c'est juste que ces deux premiers DLC, c'est déjà grand chose. Si ça fonctionne bien, ce serait bien de poursuivre cette politique, en fait, finalement, qui va remplacer Une autre politique, évidemment, celle dont tu vas me parler, oui. J'imagine.
Voilà, la question qui se pose, c'est est-ce que c'est la fin des épisodes à tiroir, des épisodes à suite ? On pense par exemple sur 3DS à Ultra Soleil et Ultra Lune, et des troisièmes versions. Alors c'est vrai que les troisièmes versions, il n'y en a pas eu depuis Platine, donc ça date un petit peu comme concept aujourd'hui, mais enfin, il s'est transformé, ce concept de troisième version complémentaire, en concept de suite avec Noir 2 et Blanc 2, etc., etc.
Oui, tout à fait.
X et Y faisant là aussi figure d'exception dans l'exception, il n'y en a pas eu non plus, on évite de passer à la génération suivante.
Il y a eu le remake entre temps, c'est aussi pour ça, ce qui explique qu'il n'y a pas eu de version complémentaire.
Il y a eu différents jeux étapes qui ont été des remakes de précédentes générations.
Mais de toute manière, Noir 2, Blanc 2 et Ultra Lune, Ultra Soleil sont des versions complémentaires masquées en deux versions. Ensuite, en fait, finalement.
Ce qui permet d'attraper au hameçon les collectionneurs, en vérité.
Exactement, surtout avec Ultra Lune, Ultra Soleil, quand on te colle une petite dizaine de Pokémon en plus, en fait, finalement, des nouvelles Ultra Chimères, etc., des nouveaux fabuleux, blablabla.
Et ils étaient très malins parce qu'ils avaient introduit, et désormais ils le font également pour les jeux standards, le double pack où tu peux acheter les deux jeux d'un coup. Alors ils l'ont fait là avec Épée et Bouclier, mais ça date également de Ultra Lune et Ultra Soleil, qui avait une version Steelbook avec les deux cartouches.
Alors, est-ce que c'est du coup la fin de cette politique ? J'ai envie de dire oui et non. Oui, pour la bonne raison que maintenant on peut disposer du coup du DLC et pas se retaper toute l'aventure quasiment à l'identique. C'est-à-dire qu'on va directement au cœur du jeu le plus intéressant. Parce que moi, clairement, au bout du cinquième run de la septième génération, je commençais à perdre mes cheveux et à me les arracher. C'était terrible. Là, au contraire, on n'aura pas à se refader toute l'aventure. Déjà deux fois, si on fait les deux versions, c'est déjà pas mal. Donc voilà. Mais ça m'empêche pas de me dire qu'à la fin, ils vont sortir une version GOTY avec tous les DLC. Et pourquoi pas aussi éventuellement des nouvelles créatures dans cette version GOTY. Super méga épée, super méga bouclier.
Un exemple de ça, non pas chez la Pokémon Company, mais directement de la part de Nintendo, c'est Animal Crossing sur 3DS, Animal Crossing New Leaf, qui a eu une version Welcome Amiibo, donc une version boîte, avec le patch le plus récent, la compatibilité avec les Amiibo, que ce soit avec l'accessoire 3DS ou les New 3DS qui disent directement les Amiibo, et un nouvel espace sur le côté, un petit campement qui rappelle un petit peu le jeu mobile Animal Crossing. Donc, il pourrait tout à fait prendre cette approche, effectivement, de faire une version GOTY ou une version Ultime, avec tous les
DLC. Tout à fait. Mais je trouve que quand même le choix du DLC est pour moi la meilleure orientation, surtout qu'il propose des DLC on va dire thématiques avec des idées assez différentes. On n'est pas entré dans le détail, mais Isole Armure, donc l'idée c'est le combat et le perfectionnement, et Coroneige c'est plus l'aventure. Les deux thématiques sont très opposées parce que une c'est des îles un petit peu j'allais dire tropical, quand même pas exagéré, mais en tout cas ensoleillé, beaucoup plus ensoleillé que Galar, qui est tiré, je le rappelle, des îles britanniques. Alors que Coroneige, comme le nom l'indique, c'est la neige, c'est l'aventure, c'est un truc un peu plus sombre, un peu plus gothique même dans l'architecture, en tout cas des bâtiments que l'on croise, mais aussi des Pokémon que l'on risque de croisé parce qu'il y a quand même pas mal de nouvelles créatures entre guillemets.
Exactement, on nous annonce 200 Pokémon de plus à travers ces deux petites extensions dans ce pass. Est-ce que ça veut dire, je joue un petit peu la politique Pokémon fiction, que tous les Pokémon manquants pourraient revenir en imaginant peut-être d'autres Season Pass en 2021, en 2022 ? Je veux dire, en voyant la Pokémon Company et Game Freak surtout annoncer 200 nouveaux Pokémon, enfin 200 Pokémon qui reviennent, plutôt que 50, plutôt que 30, plutôt que 80,
tout à fait.
Ça rend tout à coup, entre guillemets, à portée d'avoir le Pokédex entier.
Tout à fait. Alors, c'est la première chose à laquelle j'ai pensé. Alors déjà, il faut savoir que la sortie de ces deux DLC vont s'accompagner de mises à jour gratuites, c'est-à-dire que les 200 Pokémon, j'imagine que c'est 100 et 100, hein, très basiquement, vont être intégrés, sont 200 Pokémon, 200 anciens Pokémon.
Oui, ça, il faut le préciser déjà. Aussi, y a pas... est-ce qu'ils ont annoncé de nouveaux Pokémon qui iraient également avec ça, ou c'est uniquement 200 anciens ?
Alors oui, alors ça rejoint la question de Yeti-sama du coup, j'allais la dévoiler plus tard mais on peut en discuter maintenant. Donc déjà tout d'abord la mise à jour gratuite, donc avec l'inclusion des 200 anciennes créatures pour compléter le Pokédex de Galar qui je rappelle est à 400, 435 si on compte donc les créatures ghost un petit peu dans la cartouche mais qui comptent dans ces 200 à mon avis, ça va quand même porter à 600, donc c'est toujours pas... les 900 quelques auxquels on est.
Mais c'est un DLC et demi de différence, quoi, à ce stade. On peut se dire ça aussi, quoi.
Oui, on s'en rapproche dangereusement, j'ai envie de dire. Donc, je pense qu'ils ont été très sensibles à la polémique du National Dex, qui a quand même été extrêmement violente, il faut le dire. Mm-hmm. Puis c'est pas du tout bien passé pour X raisons. On va pas revenir là-dessus. Mais en tout cas, ils ont entendu. Donc, il y a une mise à jour gratuite. Donc, ça, c'est bien. Ça, c'est très, très bien. Alors, parmi ces 200 Pokémon, il y a des anciens Pokémon, mais il y a aussi des nouvelles formes d'anciens Pokémon. On a vu le trio légendaire des oiseaux, donc de la première génération, Elector, Sulfura, Articodin, qui ont des nouvelles formes, qui sont absolument génialissimes, je trouve, en termes de design. Je sais pas trop de quel type ils sont. J'ai l'impression qu'ils ont tous chopé le type ténèbre tout en gardant leur type original. Donc peut-être que le type vol va être supplanté par le talent lévitation. J'en ai aucune idée. Mais ça me rend en tout cas très curieux. Mmh. Et il y a aussi des nouvelles formes Gigamax. Il y a pas seulement Dracaufeu qui a droit à son Gigamax. Donc à Galar, vous savez qu'on peut obtenir un Salamèche grâce à Tarak. Et ben maintenant, il y aura aussi un Gigamax Florizarre, un Gigamax Tortank qui sont vraiment extrêmement stylé.
My boy Florizarre.
Mais qui ressemble à une énorme tarte, mais que j'adore encore plus que la méga évolution de Florizarre, vraiment. On a aussi des Gigamax pour les starters de la Galar qui n'en avaient pas, qui sont assez cool. Je pense notamment à les Argus qui se transforment vraiment pour le coup en sniper, donc le côté espion joué à fond. Mais on a aussi des nouvelles créatures. On a vu deux nouveaux golems, de nouveau Régis, après Régistil, Régice, Régirock et Régigigas. On en a vu deux, dont un de type électrique, l'autre type a priori dragon, peut-être ténèbre éventuellement, qui seront donc eux à Coroneige, probablement d'ailleurs un dans chaque version, hein, Coroneige bouclier, Coroneige épée, puisque le temple est partagé, on le voit le jaune et rouge. J'aime bien l'idée qu'ils augmentent du coup le certain trio qui est déjà devenu un quatuor, qui est devenu un sextuor, je sais pas comment on dit, un quintet, après le quintet, je ne sais plus. En tout cas, voilà, c'est assez intéressant de pouvoir étendre justement ça. Il y a des nouvelles formes, donc le nouveau Ramolos, et de nouveaux légendaires. Donc Chifours qui évolue en... Huichours, pardon, qui évolue en Chifours, donc un légendaire qui évolue, ce qui est relativement rare, on l'a seulement vu avec Cosmog, ainsi que Silveroi, qui est tellement stylé. Bon, encore un légendaire de type psy, c'est le millième, mais c'est pas très grave. Mais voilà, donc potentiellement, je me dis, alors c'est un rêve que j'ai, ça m'étonnerait énormément. Je me dis, on est à 200 Pokémon, si on en met 100 par DLC, est-ce qu'ils oseraient pas mettre 50 nouvelles créatures à côté pour faire 150? C'est beaucoup trop, hein, parce que ça rajouterait 100 nouvelles créatures, alors que le jeu épée bouclier de base en rajoute que 80. Mais j'aimerais bien qu'il y ait 10 nouvelles petites créatures quand même dans chaque épisode. Ce serait bien, j'aimerais bien.
Justement, je vais le dire, la question d'Itisama, on traitera les autres questions ensuite, c'était le nombre exact de Pokémon ajoutés dans ces extensions en proportion anciens, nouveaux Pokémon. Merci.
Pour l'instant, voilà, on ne sait pas trop. Si j'en crois très précisément ce qui a été dit, c'est 200 anciens Pokémon. Donc ça veut dire que Wishurs, Chifours, Silveroi...
Ne compte pas.
Les deux régies ne comptent pas, voilà. Donc potentiellement, on est au-delà des 200 Pokémon. Les 200 sont uniquement des anciens si ce qui a été dit du coup dans le direct est extrêmement correct.
Et tout ça, c'est des Pokémon qu'on pourra importer à travers évidemment différents systèmes. La banque Pokémon, puis la banque puis Pokémon Home, l'un dans l'autre. Pokémon Home d'ailleurs qui sortira en février.
Voilà. J'insiste, c'est on pourra pas les importer depuis la banque.
Non,
il faudra envoyer les Pokémon de la banque vers le Pokémon Home et là on pourra importer.
Donc ça nécessite de payer 3 abonnements, Nintendo Switch Online, Pokémon Home et Pokémon Bank. Merci beaucoup. Mais ça vous permet de ramener tous les Pokémon compatibles de Pokémon Ruby, Saphir, Émeraude et supérieur et tous les jeux alternatifs, donc à partir de la Game Boy Advance.
Exactement.
À travers un truchement compliqué. Je pense que si aujourd'hui vous n'avez pas fait l'effort de les ramener sur DS ou 3DS, ça va vite devenir pénible, mais ce sera techniquement possible, ce qui est franchement impressionnant quand on sait, par exemple, que si on prend sa vieille cartouche de Pokémon Ruby ou Saphir, la pile qui sert, elle, à compter le temps et à réactiver les baies sur les arbres, elle est morte depuis perpète. Donc c'est assez marrant de voir que ça, par contre, c'est possible. C'est rassurant d'une certaine manière.
C'est possible si on a le bon équipement. Je rappelle que pour faire les transferts, du coup, depuis Ruby,
Saphir,
il faut une DS. Après, il faut une DS et une 3DS, c'est le plus pratique pour pouvoir faire les échanges ensuite de console à console. Et je crois qu'après, c'est bon. Une fois qu'on est équipé avec une seule 3DS, je pense que ça suffit pour faire tous les transferts suivants.
Il vous faut à peine 3 consoles. Très bien. Ouais. Et 3 consoles, 3 abonnements, c'est la règle de 3. Fantastique. Il n'y a pas que Star Wars qui a droit aux trilogies. J'aime beaucoup. Bien. Est-ce que le prix de ce DLC te semble raisonnable? En France, en Union européenne, c'est 30 euros.
Ouais. Ça me paraît pas excessif. Enfin,
30 euros pour le pass qui contient les deux, hein, je précise.
Ouais, c'est peut-être 5 euros trop cher. Peut-être 30, c'est un petit peu beaucoup. J'aurais bien vu un 12,50 par DLC. C'est pas une énorme différence hein, au global, mais je trouve que 30 euros. Et en même temps, c'est dur de juger parce que.
C'est dur de quantifier avant qu'on y joue, oui, bien sûr.
C'est ça, on sait pas à quel point il y aura la quantité. Il nous parle donc d'environnement entièrement ouvert, hein, comme les terres sauvages.
Ce qui me refroidit un petit peu, pour être honnête. Parce que c'est pas le point fort du jeu. Hein.
Alors, c'est pas le point fort du jeu, mais je pense très honnêtement que les terres sauvages ont été intégrées très tardivement dans le jeu. Parce que la façon dont déjà l'architecture même du jeu, la carte de Galar me fait penser que ça a été conçu assez tardivement. Et l'autre petit point qui m'y fait penser, c'est que quand tu compares la carte de Galar, la place qu'a la fosse des sables, donc la petite zone désertique au nord des terres sauvages, qui est toute petite sur la carte de Galar, alors que quand tu regardes en taille effective dans la map du jeu, c'est une très grande zone. Donc pour moi, elle a vraiment été agrandie à la fin. Ça a grossi, ça a enflé, si tu veux, pour moi, les terres sauvages. Et il devait partir, alors c'est purement spéculatif hein, de ma part, mais il devait partir sur un jeu classique, hein, typiquement. Et ils ont vu Breath of the Wild, le succès, etc. Ils se sont dit, tiens, il faut qu'on tente peut-être quelque chose comme ça de notre côté. Et ils ont ajouté, du coup, ils ont greffé, ils se sont dit, là, hop, on explose tout. On met les terres sauvages là. Là, ce qui est quand même intéressant sur le DLC, c'est avec des terres sauvages, mais avec des personnages, avec des bâtiments. Donc, ça va être autre chose que les terres sauvages très arides, en fait, qu'on connaît finalement à Galar. Et c'est là, peut-être aussi avoir plus de liberté, plus de tentatives intéressantes. On va pouvoir jauger, mais difficile de savoir quelle est la densité, la durée de vie aussi de ce contenu. Donc, pour l'instant, le prix, même si ça me paraît un chouïa élevé en l'occurrence... déjà 100 Pokémon par DLC, en sachant que le jeu de base en contient 400, ça me paraît assez généreux malgré tout.
Bon, écoute, pour moi, comme je te dis, j'ai des réserves sur le fait que ce soit des terres sauvages bis, encore une fois, c'est pas le point fort du jeu. J'apprécie quand même le fait qu'il visiblement veut y mettre plus de challenge dedans, et c'est peut-être la chose qui m'attire plus que les nouveaux Pokémon, même si j'accueille ça avec les bras ouverts, hein, évidemment. Plus de Pokémon, tant mieux. Le problème pour moi, justement, c'est le prix. C'est-à-dire que, entre guillemets, peu importe l'offre, un DLC, quand bien même double DLC, 30 euros, ok. 42 francs suisses. Ce qui correspond à peu près à 39 euros. Là, c'est ça cher. Fait un peu plus mal. Parce que là, on est, on bouge tranquillement dans la direction du titre retail Switch, mais budget. C'est-à-dire vraiment les jeux du type Kawashima, Spyro, etc., etc. On entre dans une catégorie de prix où c'est pas l'expérience d'un DLC qu'on veut, c'est l'expérience d'un jeu complet. Et même si l'expérience de Kawashima, un jeu complet, on en reparlera. On en reparlera dans une semaine dans la cartouche. Mais toujours est-il, je trouve que c'est une chose un petit peu délicate de demander à quelqu'un qui a dépensé autour de, je crois que c'est 60, 70 francs, de dépenser 42 francs de plus. Peu importe ce qu'il y a derrière. Ça me paraît un petit peu difficile. Encore une fois, en plus, quand on parle pas de Mario Kart 8. Qui est littéralement le meilleur de sa série. On parle de Pokémon Épée et Bouclier, qui est un jeu qui se joue, qui est bien, qui est sympa, mais sans plus, et qui est clairement un des moins bons épisodes canoniques, voire le moins bon, à mon avis, épisode canonique de la série. Alors pour moi, c'est un peu complexe.
Mais surtout,
le consentement à payer est différent, oui.
Tu soulignes un point intéressant, c'est-à-dire, mais c'est aussi ce que j'évoquais, c'est-à-dire que l'épisode perdait en ampleur malgré tout, même si je reconnais beaucoup de qualités à commencer par son rythme et sa mise en scène que je trouve très intéressante. Mais en choisissant la piste du DLC, ils vont faire vivre la génération beaucoup plus longtemps qu'avec une version complémentaire, ce qui leur permettra en l'occurrence potentiellement de gagner du temps avant la prochaine génération et de proposer un meilleur jeu la fois prochaine. Donc c'est aussi pour ça, et j'ai oublié de l'évoquer tout à l'heure, c'est aussi pour ça que la piste du DLC pour moi me paraît extrêmement intéressante. Et ça, s'ils font vivre suffisamment le jeu d'ici la prochaine génération pour inclure tous les Pokémon. Ça veut dire qu'en parallèle, ils font le travail de modélisation des Pokémon, ce qui leur bénéficiera aussi dans la prochaine version. Ça ne peut être vraiment que tout bénef pour nous, en nous gratifiant plus de contenu supplémentaire pour nous faire patienter, du contenu qui va nourrir tous les autres médias, je pense aussi notamment l'animé et aussi les cartes, hein. Ça veut dire qu'avec des nouvelles créatures, on aura aussi des nouvelles cartes, etc. J'en parle parce que je me suis remis dedans, les cartes c'est formidable. Donc je pense que c'est vraiment une bonne solution pour faire vivre au mieux Pokémon, d'avoir ce suivi beaucoup plus récurrent.
Je comprends, je suis pas tout à fait d'accord, mais je comprends, et j'espère simplement en tout cas qu'ils prendront du temps pour reculer pour mieux sauter, que ce sera le travail d'une petite équipe et qu'une autre équipe commence déjà à préparer un petit peu la suite, potentiellement du remake.
C'est le cas parce que tu vois qu'ils ont mis c'est Tani je crois sur les DLC. Alors je pense que à côté Omori et Masuda planchent déjà sur autre chose.
Le reboot de la Gen 4 peut-être. D'ailleurs, c'est ce qui m'a fait marrer, on en a pas parlé aujourd'hui, mais dans ce Nintendo dans ce Pokémon Direct, pardon, on a aussi eu droit à une annonce qui moi personnellement m'est passée un petit peu au-dessus du crâne, qui est Pokémon Donjon Mystère, le titre original remake. Et quand j'ai vu ça, c'était très drôle parce qu'en fait le trailer quand ils l'ont présenté commence par 2006. Et là je fais quoi ? T'annonces le remake de la Gen 4 maintenant, parce que Pokémon Diamant et Perle au Japon, ils étaient sortis en 2006. Donc l'espace d'un instant, je me suis dit déjà, ça va pas, c'est étrange. Et non, en fait, plot twist, c'était Pokémon Donjon Mystère et la moitié de l'humanité est retournée s'endormir pendant que l'autre était relativement intéressé par la chose. Donc, il a l'air mignon, hein, mais c'est juste pas mon gameplay.
À voir ce qu'ils en feront.
Est-ce que toi, ce DLC, tu l'achèterais, même si c'était pas ton travail d'en parler, de le critiquer?
Ah, vraiment, j'ai fait un tweet très clair, j'ai dit on passe d'un jeu qui est mais, donc je suis très, très vindicatif par rapport à ce que j'ai dit sur, mais c'est vrai que pour mon goût personnel, c'est pas forcément un bon épisode, mais je considère que c'est un bon épisode pour plein de raisons, hein. J'ai plein de gens qui vraiment s'y sont remis, notamment avec cet épisode. On passe d'un jeu qui était donc mais à potentiellement, je pense qu'il peut avoir ce qu'il faut pour être un des plus grands jeux Pokémon en continuant sur cette politique. Mais comme j'ai dit, ça va pas se faire en deux DLC.
Non.
Il faut vraiment qu'ils pensent à plus long terme et qu'ils incluent surtout beaucoup de choses dans ces DLC. J'y crois aussi parce qu'ils ont une communication qui était très particulière pour cette génération, en dévoilant très très peu de créatures, en laissant plein de surprises. Peut-être qu'ils vont faire la même chose sur ces DLC et qu'il va y avoir pas mal de choses intéressantes. Pourquoi pas à terme des arènes supplémentaires, une seconde ligue, ce genre de choses qui sont pas forcément extrêmement compliquées à implémenter en plus. Donc j'attends du suivi et j'attends de voir. Donc moi clairement je foncerai parce que rien que le nouveau trio légendaire, le retour d'anciens Pokémon et potentiellement des nouvelles formes de Galar, moi ça me rend complètement zinzin.
Alors on va passer au courrier maintenant si tu le veux bien, puisqu'on a eu quelques questions vis-à-vis de ce DLC justement. On a posé la question sur Twitter et vous êtes venu soit par email, donc lacartouche@blueprint.pm, soit par Twitter @lacartouchebp à nous poser quelques questions. Bigaston demande: que pensez-vous de cette nouvelle façon de faire et qu'à Nintendo à sortir des DLC, et que pensez-vous de l'avis des gens qui disent que Pokémon épée bouclier a été sorti à la va-vite pour nous mettre la fin du jeu en DLC? Donc deux questions: Nintendo les DLC, et est-ce que ce jeu a été rushé pour ensuite lancer cette politique de DLC?
Alors je répète pour la millième fois du coup, alors ça c'est pas contre Bigaston, Pokémon ce n'est pas Nintendo.
Ouais, oui,
c'est vraiment quelque chose qu'il faut comprendre. Ça sort sur les consoles Nintendo, qui est un partenaire privilégié et qui a fortement participé, qui participe toujours aussi de toute manière à la création des jeux par les parts déjà qu'ils ont dans les différents organismes qui gèrent Pokémon. Mais Pokémon, c'est Game Freak.
C'est un mariage partiellement d'amour et surtout de raison.
C'est un oui, mais c'est aussi un mariage où clairement c'est Madame Game Freak qui porte la culotte, si je peux m'exprimer dans cette expression à la fois triviale et misogyne.
Oui.
C'est vraiment Game Freak qui qui réfléchit, enfin c'est la Pokémon Company en tout cas, qui gère Pokémon de manière relativement indépendante parce qu'ils sont assis sur une poule aux œufs d'or, et Nintendo a été plus un appui, a été un guide en tout cas, on va pas revenir sur le développement, mais voilà, et c'est toujours une posture qu'ils ont aujourd'hui, et la Pokémon Company en position de force en fait vis-à-vis de Nintendo.
L'anecdote qui va bien, c'est de rappeler que par exemple la Pokémon Company a sorti un titre Pokémon sur une console portable de Sega, sur la Pico. Et ça, c'est déjà juste un élément assez surréaliste qui prouve à quel point le Pokémon Company, c'était évidemment un bête jeu de second, troisième couteau, complète juste là pour mettre en avant le dessin animé. Mais c'est quand même symbolique du niveau de liberté qu'a Pokémon et la Pokémon Company.
Puis ils sont arrivés sur le mobile bien avant Nintendo.
Exactement.
Hein, donc ils gèrent leur barque aussi de leur propre manière. Donc ça a pas grand chose à voir avec la politique de Nintendo. Ça s'intègre avec la politique de Nintendo. Ils en sont peut-être aussi inspirés, et ça a dû être des discussions qu'ils ont eues avec Nintendo. Ça, fort probablement. Mais c'est aussi un choix interne auquel Masuda avait l'air, avec Omori, de penser depuis un moment, ce qui est pas forcément, ça a l'air crédible, hein. Pour moi, c'est crédible. Mais c'est vrai qu'en termes de politique, c'est un revirement. Donc c'est un changement important. Donc voilà, moi je suis pas contre. En tout cas, si c'est la question, si c'est pour contre, je suis jamais contre le DLC quand c'est bien fait et proposé à prix raisonnable et que ça propose du contenu intéressant, intelligent. Concernant ensuite l'avis comme quoi le jeu a été bouclé pour mettre la fin du jeu en DLC. Non, je ne pense pas, même si on peut voir ce contenu comme la fameuse aventure post-league qui existe en fait indépendamment dans le jeu, même si elle est relativement courte.
Très simpliste, hein.
Elle est simpliste et courte, mais elle est plus présente que dans les dernières générations. Ça, c'est indéniable. Par rapport à la 6 et la 7, on a un vrai contenu. Le post-game est mort après la 5e génération. Là, pour le coup, on part sur des aventures différentes, sur des autres, du contenu supplémentaire, qu'on pourrait rapprocher d'ailleurs des îles Sévi dans Rouge Feu Vert Feuille, qui n'était pas un DLC, hein, qui était intégré au jeu. Mais si, peut-être que si Rouge Feu Vert Feuille ressortait aujourd'hui, peut-être que les îles Sévi auraient été un DLC. Toujours est-il que peut-être que la question du DLC a été évoquée pendant le développement. C'est fort probable. Peut-être que le jeu est sorti trop tôt par rapport à ce qu'il voulait sortir aussi comme intégration de Pokémon. Ça aussi, c'est fort probable, parce que je rappelle que Pokémon, c'est pas qu'un jeu vidéo. C'est-à-dire que la sortie du jeu vidéo est de toute manière conditionnée à 1, la date. On a besoin des vacances de Noël. 2, l'animé qui était prévu pour finir à tel moment. Tous les produits dérivés. Enfin, c'est une machinerie. Tu ne peux pas reporter un jeu Pokémon. C'est juste impossible. Donc, ils ont fait ce qu'ils ont pu avec la 8e génération. Et pour moi, le fait que ça se passe dans des zones extrêmement différentes me fait dire que de toute façon, ça n'entre pas dans le cadre de l'aventure principale qui, elle, est vraiment cohérente du début à la fin, y compris le post-game. C'est toujours facile de dire « Ah, il y a un DLC, mais ils auraient pu le mettre dans le jeu de base et tout. » Oui, aujourd'hui, les jeux sont pensés avec le DLC. Ça, il n'y a pas de secret. Et oui, tu pourrais toujours vendre le DLC dans le jeu de base, bien évidemment. Enfin, je veux dire, c'est pas gênant. Mais en termes de cohérence, pour moi, c'est pas du contenu qu'ils ont retiré, en tout cas, l'aventure principale, parce que ça s'inscrit vraiment dans une démarche extrêmement différente.
Et ben, justement, répondons un petit peu à ce que tu dis, Yamashita demande, que pensez-vous du fait d'avoir caché, face au bad buzz, qu'un DLC était prévu pour Pokémon, en tout cas de ne pas l'avoir annoncé, c'est moi qui réarrange un petit peu la question de Yamashita. Était-ce prévu initialement, ou est-ce justement un plan sorti à la dernière minute face aux critiques? Le tout a l'air en développement depuis peu. Ce silence passé me paraît étrange.
Je pense que c'est compliqué de vendre un DLC déjà à la sortie du jeu.
On demande à Activision. c'est très facile.
Non mais c'est possible. Hein. Ça montre aussi que tu fais un suivi du jeu. C'est pas forcément. Mais en tout cas, c'est pas dans la politique de Nintendo. Et justement, je pense qu'ils auraient craint les réactions comme Bigaston, au dire voilà, c'est sorti, elle va vite. Je pense qu'ils auraient eu peur de ça. C'est-à-dire l'annonce 2 mois après.
Excuse-moi, tu dis c'est pas la politique de Nintendo. Tout à l'heure, tu faisais quand même la différenciation entre Nintendo et la Pokémon Company. Donc, il y a quand même un petit peu d'influence de la politique de Nintendo, oui, comme tu le disais, tu hein, vois, mais juste pour,
je,
pour
je
clarifier.
Je prends mon propre piège. Ah oui, non, mais après, pour moi, oui, tout à fait. Je pense clairement qu'ils se sont inspirés et qu'ils s'inscrivent, en tout cas, dans la politique de contenu de Nintendo. Ils s'inscrivent entièrement dans cette démarche. Mais tu vois, même moi, je me fais prendre à mon propre piège. Mais et tu fais très très bien de me corriger. Donc effectivement, c'est vrai que c'est bizarre de l'avoir caché vis-à-vis de la polémique qui a été ouverte. Je pense aussi que y a une, alors, pure spéculation, encore une fois, on peut pas savoir, hein, est-ce que c'était vraiment prévu. Peut-être qu'il y aura des j'essaierai de me renseigner, peut-être qu'il y aura aussi des post-mortem. Alors, c'est plus difficile, hein, quand c'est les Japonais, peut-être dans des interviews plus tard on aura peut-être des informations. Mais
à la GDC peut-être,
ouais. Peut-être effectivement. Pourquoi ils l'ont caché, je pense qu'il y aurait eu quelque part le fait de se dire on a fait une erreur, si jamais ils auraient accepté ça. Ils avaient plutôt dit ça. On a fait une erreur en incluant que 400 Pokémon. Voilà, et on va corriger plus tard. Ça paraît comme un bonus. On vous offre des Pokémon supplémentaires. S'ils avaient communiqué plus tôt, ça aurait été, je pense, trop maladroit.
D'accord.
Donc pour moi, c'est vraiment une pure décision de communication.
On a fait le tour de vos questions, on continuera à en poser donc sur Twitter en vous demandant, bah voilà, on a tel et tel sujet dans la cartouche prochainement. Si vous avez des questions à ces sujets-là, n'hésitez pas à nous les envoyer @lacartouchebp ou lacartouche@blueprint.pm. Et bah voilà, c'est tout pour moi pour les questions.
Bah oui, toujours est-il que la cartouche, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode, c'est promis. En attendant, abonnez-vous à ce podcast pour ne manquer aucun épisode de La Cartouche, votre podcast jeu vidéo préféré, bien évidemment.
Oui.
Vous pouvez aussi nous soutenir avec quelques euros par mois, patreon.com/blueprint+, tout collé, plus PLUS, bien évidemment. À très vite, ciao.
Ciao.